Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu en direct du salon des éditions Libertaires. Si vous êtes sur les pentes ou sur le plateau, n'hésitez pas à couper la radio et à venir directement nous voir. C'est à la maison des associations, rue d'Enfer Rochereau. Si vous êtes plus loin ou que vraiment vous êtes occupé chez vous, on va pouvoir vous parler un petit peu maintenant d'un des collectifs qui est présent sur le salon, qui s'appelle CQFD. Alors, on a avec nous Sébastien et Catherine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, CQFD, qu'est-ce que c'est ?
Moi d'abord, ok. Donc moi je suis Sébastien, donc CQFD c'est un mensuel de critique sociale qui existe depuis 2003, donc qui est fabriqué sur Marseille, et puis qui tient la barque bon gré mal gré depuis maintenant donc un peu plus d'une dizaine d'années.
D'accord, donc c'est un mensuel, c'est diffusé comment ? C'est en kiosque, en librairie ?
Qui est diffusé en kiosque, ouais.
En kiosque. Et ça fait à peu près combien de pages ? Ça coûte combien ? Ça ressemble à quoi ?
Combien de pages déjà ?
Il y a 16 pages et il coûte 2,80€. Et c'est aussi possible de s'abonner. On n'est pas obligé d'acheter en kiosque.
Ok. Ouais. Et du coup, par exemple, ce mois-ci, de quoi ça parle ? Qu'est-ce qu'on peut lire dans les 16 pages de CQFD ?
Alors ce mois-ci, on a un beau dossier qui s'appelle « La mort qui tue ». Donc c'est un peu macabre, mais c'était dans l'époque de la Toussaint, tout ça. Et donc on est allé voir Sébastien et allé voir des gardiennes de cimetière, par exemple. On a un texte sur le transhumanisme et ses délires de vie illimitée. On a une nécrologie du regretté PDG de Total, Christophe de Margerie. Voilà, une nécrologie écrite par un ancien employé de Christophe de Margerie et qui donne l'ambiance de l'usine le jour où ils ont appris le décès de leur ancien patron.
Vous faites partie de ces méchants gauchistes qui crachent sur les grands patrons qui ont fait l'honneur de la France, quoi.
Exactement.
C'est un peu nous, ouais.
Voilà, bon, sur le dossier sur la mort, il y a vraiment plusieurs approches. On a aussi un texte un peu plus, d'introduction plus philosophique sur la mort. Et on a aussi l'interview d'un infirmier dans un service de réanimation à Lyon, d'ailleurs, un Lyonnais.
Ok, donc tout ça c'est un dossier, j'imagine, qui a été préparé un peu à l'avance, une volonté de prendre un peu du recul sur sur un sujet. Est-ce que vous faites aussi de l'actualité, vu que c'est mensuel ? Est-ce que vous essayez de traiter aussi ce qui se passe finalement dans le pays, ce qui s'est passé ces dernières semaines ?
Oui, c'est un peu c'est toujours délicat pour un mensuel de traiter de l'actu, puisqu'on ne peut pas réagir comme un hebdo ou un quotidien. Mais c'est toujours des questions qui reviennent au sein du comité de rédaction, de savoir, quand tu envisages la sortie du journal dans 3 semaines, tu as quelque chose qui se passe à l'instant T, comment tu peux en traiter maintenant pour que le lecteur, dans 3 semaines, tu vois, donc c'est... On essaie de coller à ça tout en ayant une temporalité qui appartient donc à la sortie d'un mensuel, quoi, beaucoup plus lente. Mais juste pour finir avec de Margerie, juste pour que les gens aient une petite odeur de ce que peut être ces QFD, je peux peut-être lire un passage, non ?
Vas-y.
Ça se fait, ça ? Bon, je vais carrément lire le truc. Alors que tu vas au boulot le matin, coincé dans une circulation soutenue, voilà que l'autoradio t'apprend que ton ancien PDG vient de passer l'arme à gauche. Tout de suite, ta journée prend un autre air. Un mélange de plaisir et de déception. Déception parce que tu aurais plutôt aimé voir sa tête au bout d'une pique pendant qu'on aurait dansé une joyeuse carmagnole. Tu pensais aussi que, vu les accointances de sueur avec Poutine, son goût très marqué pour la vodka et ses magouilles sur le prix du gaz, ce serait plutôt la mafia russe qui le dessouderait. Bon, il est un peu méchant, hein, c'est notre copain Jean-Pierre Levaret. Même pas. Un banal accident du travail. Sauf que celui-ci, on en parle. Qu'est-ce qu'il met là ? Oui. Quoi qu'on ne sache rien des membres du personnel du Falcon qui soit mort avec lui. La presse et les politiques sont intarissables sur la mort de De Margerie. Bien plus que sur les accidents mortels qui ont eu lieu dans les raffineries Total de Fézin ou Gonfreville. À l'usine, c'est le sujet de discussion et de rigolade. Tout le monde se lâche. Attention, là, éloignez les enfants. Il n'avait pas encore son parachute doré. Il n'aura pas de problème avec l'amiante. C'est Depardieu qui conduisait la déneigeuse. Voilà, donc c'est un peu... Le ton, je m'arrête là. Le ton qu'on peut trouver dans certains textes de CQFD.
Irrévérencieux, quoi.
Complètement.
Moi, je suis un petit peu choqué. Personnellement, bon, j'étais un client habituel. Notamment depuis le lancement de Total Access, qui était quand même pensé pour les précaires.
Ouais.
C'est quand même une perte, ça de Margerie. Et voilà, je suis un peu remué par la lecture de ce texte. Enfin, c'est important d'avoir des points de vue différents. Hein, voilà.
On a tous le droit de porter les moustaches. Non, j'ai pas de chute là, c'est dommage, mais ça va venir avant la fin.
Non, mais c'est vrai que les auditeurs de Radio Canu ne regardent pas forcément beaucoup la télé, mais sachez que Christophe de Margerie avait une moustache très célèbre et qu'il était surnommé lui-même Moustache.
Christophe, on pense à toi. Et j'ai crié.
Et du coup, on parlait de comment se débrouiller avec le traitement de l'actualité. Moi, quand j'ai vu la une de CQFD, j'ai cru que c'était un hommage à Rémi Fraisse, en fait, puisque c'est titré « La mort qui tue ». Mmh. Et donc voilà, ça a été un événement marquant, la mort de Rémi Fraisse ces dernières semaines. Comment vous êtes débrouillé avec ça, justement, avec ces questions de timing dont vous parliez?
En fait, on avait prévu un reportage au Testet pour le week-end du 25. Donc on avait Célia qui était sur place, une journaliste de Z aussi. Et donc elle était sur place, elle a fait son reportage, elle a suivi des bergers, c'est ça, enfin des troupeaux dans la vallée du Tescou. Et donc bah, il se trouve qu'elle était là, elle n'était pas sur les lieux du drame, mais bon, elle a vécu le drame, elle est revenue assez choquée. Et donc son reportage a pris une autre tonalité. Notamment, elle a reçu un témoignage d'un militant qui avait appelé la police quelques semaines avant le drame. Et il avait appelé la police pour dénoncer des milices qui venaient agresser les militants pacifistes. Et la police lui avait répondu, alors je vais reprendre le journal, lui avait répondu « C'est normal ». Parce que vous allez beaucoup trop loin, ça fait un an que vous nous faites chier et il va finir par y avoir un mort. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé l'article chronique d'une mort annoncée. Mais voilà, mais on n'avait pas prévu du tout ça, évidemment. Et donc on en parle aussi dans l'édito. On revient dessus.
Le dossier est une pure coïncidence avec l'actualité du testé. Ouais.
Et est-ce qu'il y a une volonté de suivre justement particulièrement les luttes, notamment les luttes syndicales ou pas spécialement? Est-ce que vous êtes aussi est-ce que vous voulez être le relais en fait de lutte ou comment vous positionnez par rapport à ça?
Oui, t'as une autre question? Oui, évidemment. Après, la taille du journal, elle est réduite. Donc, il y a des gens qui disent, ça serait bien que vous parliez d'un sujet tel mois et puis on n'en entend plus parler pendant 3 mois, 6 mois. Donc, il y en a qui aimeraient bien avoir un suivi. Mais l'idée, oui, c'est celle-là. En tout cas, il n'y a pas de tabou que la lutte soit syndicale, qu'elle soit menée par des groupes différents ou qu'elle soit purement territoriale ou quoi. Oui, il n'y a pas de... Tous les sujets nous intéressent. À partir du moment où nous, on peut rencontrer les gens qui sont à la base de la lutte, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour nous de rencontrer des leaders syndicaux ou des porte-parole attitrés. Et nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis et de voir comment les gens s'organisent. Comment ils arrivent à penser leur réalité, et ça y est, ça chante. Et comment voilà, ils organisent leur propre résistance, et comment nous, en tant que médias, parce que le problème, il est là, c'est que tu débarques, moi, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas de carte de presse, tout ça, je n'ai pas de formation, et les gens ne savent pas qui tu es, ceux qui ne connaissent pas le journal, ils disent, c'est encore les médias qui viennent et tout, ils vont encore déformer tout ce qu'on raconte. Donc, il faut arriver à casser cet a priori-là, ce n'est pas évident, même quand tu t'appelles CQFD. Et après, faire en sorte que la parole se libère et puis que ce que tu retranscris toi dans ton papier déforme pas en fait la parole des gens. Moi, c'est un peu ce qui me tient un peu à cœur, quoi. À cœur, en deux mots. Hein. Là, vous rigolez pas, par contre. Et...
Tu veux qu'on mette un jingle à chaque
fois? Ah oui.
En termes de lutte, ce mois-ci, on a aussi Bruno Le Dantec qui est allé au Moulin Morel. C'est une grande usine à Marseille qui a fermé il y a un an. Et il y a une trentaine d'ouvriers qui luttent, qui l'occupent jour et nuit, je crois. Donc voilà, Bruno, il a été plusieurs fois sur le site pour rencontrer les ouvriers. Et il a créé un lien de confiance avec eux et ils ont accepté de témoigner dans ce numéro-là.
Et du coup, tu parlais de rencontrer les gens à la base. Je crois que vous êtes basé à Marseille. À quel point est-ce que c'est un journal marseillais ou...
Moi, j'habite à Perpignan. Donc du coup, je fais partie du comité de rédaction, mais je suis un peu l'élément étranger du cœur du journal. Et non, après, il y a des correspondants qui sont partout. Donc il y a des textes sur le Mexique, il y a des textes qui vont parler du Maghreb, des gens, ce qu'on appelle nous des collaborateurs, donc qui vont écrire et qui vont nous envoyer des... Donc le journal est fabriqué à Marseille, mais il parle du cosmos, en fait. Et même de la mort.
Et il est lu dans tout le cosmos, du coup.
On espère bien.
En France.
Il est lu surtout en France métropolitaine, ouais.
Ouais. Alors, on va peut-être écouter un petit morceau de musique et après, on pourra continuer un peu sur des questions de fonctionnement. Vous nous racontez un peu comment ça se passe à l'intérieur de CQFD, quoi.
Tous les secrets de fabrication.
Tant de merveilles et dur de leur montagne, tout trempé de groseilles, pose tendrement sur tes salmes de suie, qui viole et qui souille leur douce maman. Des acres fumés de l'essence qui a cramé, les blanches vapeurs du chebitume déposé là, bien en évidence, qui traverse en avançant l'aspe. Des udines à tout plein de sel de vengeance, la vallée des soldats qui le soir boivent le vin et s'en vont faire le pain tous les lendemains matin, en souvenir de ceux qui firent la transhumance. Un regard millénaire que ne trompe plus les apparences de sa progéniture et de ses actes méprisants envers la mère nature qui lui a pourtant tout donné.
Ra Radio Canu, la plus rebelle des radios, toujours en direct du Salon des éditions libertaires sur le plateau de la Croix-Rousse. Et on vient de s'écouter Human Spirit avec le morceau No Pasaran. Et donc on est toujours avec les camarades de CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociale, que vous pouvez trouver en kiosque tous les premiers vendredis du mois. C'est plus le 15, attention pour les habitués, ça sort un peu plus tôt maintenant. Et je crois me souvenir qu'il fut un temps, c'était écrit sous CQFD, le journal des chômeurs heureux, ou un truc comme ça. Et je vois que cette appellation a disparu, donc je me demandais, est-ce que vous êtes plus heureux ou est-ce que vous êtes plus chômeur? Est-ce que c'est plus un journal? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Alors, est-ce qu'on n'est plus un journal? Si, moi personnellement, j'ai été chômeur, mais peu de temps. Je n'ai pas trouvé ça très fun, donc je me suis salarié quelque part, mais je ne dirais pas où. Et non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, la jeunesse du journal, elle était très liée au cycle de films de Pierre Carl, Christophe Coelho et Stéphane Gox, donc qui ont fait Danger Travail et Volem Rien Foutre à le Pays. Donc, il y avait une grosse critique du travail, en tout cas de la valeur travail.
Et tu peux dire en deux mots ce que c'était ces films?
Ouais, alors, c'était des docus où étaient mis en valeur, en fait, des vies, des gens qui sortaient donc du salariat, en fait, et qui essayaient de vivre leur vie donc sans travailler. Sans travailler au sens où on l'entend dans un régime, entre guillemets, capitaliste. Et donc CQFD, et la matrice du journal, elle est en partie liée à ça. Il y avait aussi toute la mouvance du journal qui était sur l'antimilitarisme, tout ça. Donc il y avait ce bandeau, le journal des chômeurs heureux. Mais après, ça s'est décliné. Il y a eu d'autres appellations. Il y a eu mordre et tenir. Puis on avait un personnage emblématique à l'époque qui s'appelait Super Chômeur. Un gros monsieur masqué qui était assez rigolo. Et ça s'est un peu dilué, ben, parce que le discours, la critique sur le travail, c'est plus aussi facile aujourd'hui de la porter qu'il y a une dizaine d'années. Et parce que la crise aussi est passée par là et que du coup l'urgence sociale fait que ça passe un peu moins. Mais c'est toujours... On a refait un dossier sur le travail.
Oui, Bye Bye Turbin.
Voilà, Bye Bye, juste le mois passé. Donc ça reste un sujet sur lequel on revient. Mais Chômeur Heureux, oui, ça se revendique. Et puis il y a eu la réédition du... Le manifeste du... Non, il n'a pas été réédité récemment.
Si, oui, le manifeste des chômeurs heureux.
Manifeste réimprimé, en tout cas. C'était ouais. un texte, si je ne me trompe pas, qui datait d'un mouvement de chômeurs.
C'est ça.
Il y a maintenant une quinzaine d'années. Qui du coup réclamait le maintien des allocations et le fait de lutter contre le contrôle des chômeurs, etc. C'est un texte que vous avez réimprimé. Mais du coup, plus concrètement sur la fabrication du journal, est-ce que c'est un truc qui est salarié ou qui est fait par des gens du coup qui travaillent par ailleurs ou des gens qui sont du coup RSA et pour qui c'est leur activité principale? Comment ça se passe un peu au sein de l'équipe avec ce rapport au fait de sortir mine de rien 16 pages tous les mois, quoi?
Alors, il y a actuellement 2 salariés à CQFD. Sinon, c'est essentiellement bénévole. On a très peu de moyens. La priorité, c'est quand même d'imprimer chaque mois le journal. Donc, dans l'équipe, le comité de rédaction, on est entre 8 et 10. À dire. Il est fabriqué, il n'y a pas de rédacteur en chef à CQFD. Donc, toutes les décisions sont prises collectivement. C'est un fonctionnement horizontal. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Tu parles de décisions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement d'un numéro, quoi? Combien de temps à l'avance ça commence? C'est quoi les étapes en fait, pour arriver jusqu'à un truc qui sort en kiosque?
On a une réunion le jour de la sortie en kiosque de CQFD. On fait une réunion, enfin en tout cas, moi ça fait pas longtemps que je suis à CQFD, donc je parle des 2 mois précédents.
Ce qui t'ont fait croire qu'ils faisaient, quoi.
Voilà.
Le fonctionnement.
En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que... Donc on fait une réunion le premier vendredi du mois. On est 3 ou 4, donc là ça se passe à Marseille dans notre local. Et là on fait une liste des propositions de sujets. Qu'on discute, qu'on argumente, voilà, on n'est pas toujours d'accord. Et ensuite, donc on fait une liste des propositions qu'on diffuse à tout le comité de rédaction. Chacun donne ou pas son avis. Et ensuite, on fabrique un chemin de fer. Donc c'est une maquette vierge du journal. Donc on met page 1, page 2, page 3, page 4. Qu'est-ce qu'on met dans ces pages-là? Donc après, il y a des chroniques qu'on leur place à titrer. Et après, on discute, on hiérarchise l'information. On décide quelle place accorder au dossier. Et voilà. Et après, c'est des discussions tout au long du mois. Et en revanche, une semaine avant l'impression, on est en bouclage. Donc on a reçu tous les textes en principe, ce qui n'arrive jamais. Et donc là, on a Mathéo, qui est le maquettiste, qui commence à mettre en page le journal. Et...
Donc une semaine avant l'impression, c'est deux semaines avant la sortie en kiosque.
Voilà.
À peu près. Mmh.
On a connu des rythmes. Là, ça, je trouve qu'on a un bon rythme de croisière, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes assez un peu plus bousculées où voilà, c'est la réunion qui décidait le contenu du journal quand même se faisait assez tardivement et il y avait un peu le feu, le stress et tout, et il fallait réagir, chercher les collaborateurs. Alors ça peut être stimulant. Moi, je sais que pour moi, ça me stimule quand il y a un peu ce phénomène d'urgence-là, mais c'est aussi un peu angoissant, quoi, parce que tu te dis, il faut que le journal sorte. Et il est hors de question de le remplir pour le remplir. Il faut qu'il y ait vraiment un contenu pertinent qui soit décidé, qu'il y ait une certaine homogénéité dans la façon dont on le pense et tout. Donc, il faut arriver à manipuler ces deux critères pour des gens qui ne sont pas des professionnels, en fait. Donc, on apprend un peu sur le tas. Moi, les outils journalistiques, je me les suis appropriés petit à petit en tâtonnant. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, ce côté artisanal, mais qui du coup, est super intéressant, quoi. Petit risque là tous les mois. Moi, le numéro qui sort pour le mois prochain, j'avais pas d'idée, ça m'est venu un peu sur le fil. Merde, putain, qu'est-ce que je fais? J'écris pas, je me repose en vacances ou non? Et il y a cette petite tension, tu vois, de te dire, il faut que je trouve quelque chose de pertinent.
Et finalement, t'as décidé quoi?
Et finalement, j'ai rencontré des gens, ouais, mais c'est un scoop là du coup. Non, du coup, c'est une petite lutte dans l'Aude, parce que moi je suis dans les Pyrénées-Orientales, donc une petite lutte contre un projet de carrière. Donc c'est vraiment des gens très isolés. Et face à eux, ils ont une multinationale qui s'appelle Imerys, qui est une multinationale spécialisée dans l'extraction et la transformation des minerais, qui, pour la petite histoire, a ouvert en 2013 une usine en Géorgie, aux États-Unis. Elle a fabriqué à la mise au point des petites billes pour faciliter l'extraction des gaz de schiste. Donc l'extraction des gaz de schiste est interdite en France, mais ça n'empêche pas les sociétés françaises de participer à ce grand mouvement... vert, parce que ton micro est vert, cher collègue. Et donc voilà, donc je suis allé là-bas, j'ai rencontré des gens vraiment isolés, tout ça, mais à partir de ce petit fil, tu vois, tu arrives quand même à tirer une substance qui était assez étonnante.
Donc, voilà. Donc c'est à lire dans le numéro de décembre.
Voilà, qui sera, ouais.
Et ça fait donc plus de 10 ans que ça existe. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui tiennent ça depuis 10 ans? Est-ce qu'il y a un gros turnover? Comment ça se passe?
Non, ça a beaucoup bougé. Catherine est arrivée il y a... Il y a deux mois que tu es parmi nous. Elle est en pleine forme. Enfin, vous ne la voyez pas, mais elle rayonne. Et son micro est vert, mais ça reste entre nous. Le mien est bleu. Et non, il y a beaucoup de gens parmi les membres fondateurs.
Hervé, il est là depuis le début.
Oui, c'est vrai.
Hervé, donc, c'est un des salariés qui est toujours au local. Yfik Le Guen, ça fait quand même longtemps qu'il est à QFD aussi.
Après, Nicolas Retz qui est là depuis un moment.
François, il a été secrétaire de rédaction pendant longtemps. Non, il y a quand même des personnes qui sont à CQFD depuis très longtemps.
Il y a un petit noyau dur et puis tout autour, non, ça a beaucoup. C'est quand même, sur la durée, il faut quand même. Je pense que les gens qui ont créé le journal à l'époque n'auraient jamais parié que le canard puisse tenir 10 ans. Quoi. Il faut quand même une énergie assez conséquente, surtout quand on connaît le contexte de la presse en général. Quoi. C'est quand même il faut avoir une certaine foi, non pas une certaine foi, n'importe quoi, c'est pour déconner, non il faut avoir une certaine colère, quoi, tu vois, quelque chose qui fait que tous les mois t'as envie d'ouvrir ta gueule parce qu'on s'est posé la question, mais s'il y a plus grand monde qui nous lit, pourquoi est-ce qu'on continue? Et un copain qui m'a cloué le bec, qui m'a dit tout naturellement, on continue à le faire parce qu'on a encore des choses à dire. Donc, et c'est vrai qu'on a encore des choses à dire, même si après on a du mal à, dans ce circuit économique qui est un peu étouffant pour les petites structures, à rencontrer notre lectorat, quoi.
Est-ce que vous avez une idée justement de qui lit CQFD?
La ménagère de moins de 50 ans.
On a, je sais pas si. Combien de lecteurs? Quelques milliers, on va dire.
Ouais, je crois qu'on envoie à peu près 2000 en kiosque et à peu près 2000 abonnés. Donc ça fait 4000 personnes qui lirent à peu près CQFD. Après, c'est un journal qui se passe beaucoup de la main à la main, qui traîne dans les manifs, qui est sur certains marchés, dans certains rassemblements. Et qui lit CQFD, je ne sais pas si le cadre supérieur ou le médecin libéral lira CQFD. Je ne l'ai jamais vu dans une salle d'attente chez un dentiste, au milieu de Valeurs Actuelles et du Figaro. Mais qui, non, en fait, on ne sait pas. On sait les gens qu'on rencontre, comme aujourd'hui à Lyon. Quand même des gens qui ont quand même un certain positionnement politique qui tend quand même un peu plus vers la gauche de la gauche de la gauche de la gauche de la gauche qu'ailleurs. Mais après, ça, j'espère que c'est assez varié, quoi. Qu'est-ce que t'en penses?
J'ai aucune idée du lectorat. Enfin, c'est très difficile de savoir. On connaît notre entourage et puis après.
Parce qu'il y a des gens qui perdent le fil avec le canard, puis qui reviennent. Il y a beaucoup de précaires aussi. Il y a des taulards. Le journal, il est gratuit pour les gens qui sont en prison. Pour ceux qui ont vraiment pas un rang, je sais pas si. Enfin, il y a des prix aussi, donc.
L'abonnement est moins cher pour les petits budgets.
Alors ça coûte combien, s'abonner à cette QFD?
C'est vraiment pas cher. Hein. Mmh. Si vous êtes pauvre, c'est 22 euros par an. Et donc pour 11 numéros.
Ouais, c'est j'imagine. Ça.
Et si vous êtes riche, c'est 33 euros.
Donc c'est une bonne occasion de se sentir riche.
Euros.
Quoi. Juste 10 euros de plus à mettre finalement. Et...
Après, il y a le site internet, on n'en a pas trop parlé, mais qui met en ligne les articles le mois suivant. Donc là, les articles sont en consultation gratuite. C'est une autre vie, hein, après le papier. Et donc là, il y a beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de gens. Ouais, ça se... Non.
Je sais pas.
Je sais plus trop. Bon, moi, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens, en tout cas, qui lisent aussi. Mais oui, mais ça, je l'ai lu sur le site. Bon, moi, ça me fait toujours un peu grincer des dents, quoi, parce que c'est pas... Mais bon, voilà, il y a aussi un lectorat qui est sur le numérique.
Et où ça en est au niveau financier, puisque donc moi, je suis lecteur de CQFD depuis plusieurs années. J'étais habitué à lire... tous les 3 ou 4 mois, un appel à don urgent, CQFD va mourir, on a besoin d'argent, c'est un peu une tradition. Quoi. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas vu d'appel à don, donc moi je m'inquiète un peu, je me dis, est-ce que CQFD est devenu riche? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous en êtes?
On doit faire un point à la fin de l'année avec la personne qui connaît un peu mieux ces questions-là. Donc on va faire le point en décembre et peut-être qu'on fera un appel à don en janvier.
D'accord, mais c'est quoi l'équilibre économique du journal? Est-ce que ça vit uniquement des ventes? Est-ce que quand vous vendez en kiosque, est-ce que ça vous rapporte quand même un peu d'argent ou est-ce que ça en coûte, par exemple?
On l'a pas dit, mais parce que c'est tellement évident. C'est un journal sans publicité ni subvention. Et du coup, oui, c'est les ventes du numéro qui vont financer l'impression, la fabrication du numéro à venir. Quoi.
Donc les ventes représentent 100% du budget, finalement, à part peut-être une ou deux soirées de soutien.
Voilà c'est ça.
Et donc, quand vous vendez en kiosque, est-ce, sur les 2,80€, par exemple, si je l'achète chez mon kiosquier, combien reviennent à CQFD, quoi? Est-ce que vous...
Là, il faut que je téléphone à Marseille.
Non, il faut qu'on appelle la compta, là.
Je ne sais pas, parce qu'après, il y a aussi un local à Marseille qui... Il y a, par exemple, une imprimante. Il y a d'autres frais que finance aussi, là, mais je ne pourrais pas du tout l'évaluer, là.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour la sécurité du journal, c'est mieux de s'abonner que de l'acheter en kiosque. Parce que ça nous fait une trésorerie d'avance pour l'année. Voilà. Donc abonnez-vous.
Ben merci CQFD. On va peut-être se réécouter un petit morceau de musique. Il est 4h moins 20. C'est l'heure d'écouter de la musique.
Allez, on y va.